10h, 11h,
le grand rendez-vous Europe 1
avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Dimitri Pavlenko.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. C'est votre grand rendez-vous en ce dimanche 8 mai. Et pour vous interroger ce matin, à mes côtés, Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Dimitri.
Et Mathieu Bock-Côté, le penseur et sociologue. Bonjour,
bonjour,
bonjour
Mathieu.
Manuel Valls, après une parenthèse barcelonaise de 2 ans, vous revenez dans la vie politique française. Vous ne l'avez jamais quitté ni des yeux ni des oreilles, mais vous êtes candidat aux élections législatives sous la bannière de Renaissance, le nouveau nom de La République En Marche, qui vous a donc investi dans la 5e circonscription des Français à l'étranger. Elle va donc du Portugal jusqu'à Monaco, pour faire simple. Nous parlerons évidemment avec vous de ces élections, de l'enjeu pour Emmanuel Macron et pour le pays. Nous évoquerons aussi la situation de la gauche et du Parti Socialiste, votre ancienne famille politique, qui fait donc le choix de l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon. Et en fin d'émission, nous parlerons de la guerre que mène en Ukraine la Russie, notre ancienne alliée, alors que nous commémorons ce dimanche le 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais pour commencer, Manuel Valls, vous étiez présent hier à l'Élysée à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte, une société du plein emploi aussi. Alors, demain, les jours heureux, quelque part, pour paraphraser le slogan de campagne du communiste Fabien Roussel.
Non, un vrai volontarisme. Je pense que le président de la République, plus que quiconque, est conscient des crises que les Français, que notre pays et d'autres pays aussi ont connues ces dernières années, des enjeux, des difficultés qui sont devant nous. Et puis à la fois des angoisses, des espoirs, des peurs, des colères de nos compatriotes. C'est une période difficile, passionnante, mais difficile. Et donc, le président de la République a raison, je crois, de placer ce second mandat sous le signe de l'action, on va y revenir, et bien sûr de la nouveauté.
Justement, sous le signe de la nouveauté, peuple nouveau, dit-il, président nouveau. Pour quelle raison Emmanuel Macron devait-il rompre avec lui-même pour se présenter désormais sous des jours nouveaux et du président nouveau?
Mais parce que la situation a profondément changé. Nous avons connu une crise sanitaire mondiale. L'Europe aujourd'hui connaît de nouveau la guerre. Le pays, la France, mais comme beaucoup d'autres sociétés occidentales, est fracturée, divisée. Et je pense que c'est la force de ce président de la République d'être capable de se réinventer. Il l'avait dit d'ailleurs pendant la campagne. Il ne s'agit pas uniquement d'une forme de continuité banale, tranquille. Non, il faut, je crois, faire preuve d'une capacité à se renouveler face aux défis du pays.
Il a parlé d'une nouvelle méthode, mais honnêtement, c'est un concept quand même très flou. Pour vous, c'est quoi cette nouvelle méthode? Ça doit consister en quoi?
Oui, est-ce qu'il faut y voir d'ailleurs aussi une sorte de regret du président de la République dans la manière de conduire les affaires du pays quand il parle de cette nouvelle méthode?
Moi, je crois que ce qui est très important, c'est de reproposer, au fond, je traduis à ma manière, ce que souhaite le président de la République. C'est, au fond, rebâtir le contrat social de ce pays. Parce que...
Pourquoi il est détruit?
Non, vous savez, j'ai connu une période où j'étais ministre et surtout Premier ministre, où le président de la République de l'époque, François Hollande, avait indexé et même considéré que ça pouvait être un obstacle au fait qu'il se représente. Il avait indexé l'ensemble de sa politique à la courbe de l'emploi,
oui,
au fait que le chômage diminue. Le chômage diminue massivement. Nous retrouvons la croissance malgré les difficultés, oui, économiques, vous les connaissez bien, qui sont devant nous. Mais quand on fixe des priorités aussi importantes sur l'école, sur la santé, sur les retraites, quand nous considérons qu'il faut lutter contre les inégalités, pas uniquement de revenus, elles sont une réalité, mais territoriales, géographiques, sociales, générationnelles, elles se sont exprimées à travers les votes, notamment du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, il faut recoudre en permanence. Et
oui, mais donc la méthode, c'est quoi? C'est parler davantage aux syndicats, aux élus locaux, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans le premier mandat, c'est ça qu'il faut comprendre.
Mais ça a été rappelé, le président de la République, Emmanuel Macron, a dit qu'au début du quinquennat qui s'achève, et il avait voulu aller très vite. Donc oui, la méthode sur les retraites ou sur l'école, la discussion avec les partenaires sociaux, avec les élus locaux, ouais, lui-même d'ailleurs. Aucun d'entre nous ne peut se mettre à sa place. Je ne rentre pas du tout dans l'idée de la monarchie républicaine, mais c'est un fait. Il est le seul élu directement par tout le peuple. Contrairement à ce, qu'on dit ici, ça n'est ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. C'est lui, donc, c'est lui qui voit, au fond, le mieux ce rapport avec les Français. Donc, son propre rapport avec les Français, oui, il va évidemment le travailler. Et le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est en effet renouveler, refonder le contrat démocratique. Mais il faut attendre, là, les propositions du chef de l'État, du futur Premier ministre et de la majorité, notamment pour ce qui concerne les institutions, le rapport aux Français, revivifier notre démocratie, parce que les fractures que j'évoquais et l'abstention importante que nous avons connue, et pas seulement à l'élection présidentielle, je pense aux élections locales il y a un an et deux ans, montrent qu'il y a là, oui, une forme parfois de rupture démocratique sur laquelle il faut être plus qu'attentif.
Vous avez parlé du Premier ministre, ça a été une des questions de la semaine. Comment se fait-il qu'il soit si difficile de trouver un candidat pour Matignon? Est-ce que c'est lié à la vision qu'a le président de la République de la fonction, peut-être pour reprendre la manière dont Nicolas Sarkozy parlait de François Fillon? Peut-être que le Premier ministre n'est plus qu'un simple collaborateur. Est-ce que vous, qui êtes dans les cercles d'Emmanuel Macron, vous avez ce ressenti? Est-ce que ça explique la difficulté qu'on a, le fait qu'on n'ait toujours pas de nouveau Premier ministre?
Vous me laissez quelques secondes. Et Nicolas Sarkozy et François Hollande, et donc forcément Emmanuel Macron, élus pour la première fois à leur première candidature, Emmanuel Macron, lui, réélu, des hommes plutôt jeunes, Emmanuel Macron très jeune, confronté au quinquennat, mais au fond à la rapidité de nos sociétés numérisées avec les réseaux sociaux, et surtout l'exigence des Français qui place dans le président de la République, au fond, tout. Il est à la fois celui qui décide de notre diplomatie, il est le chef de nos armées, et il doit s'occuper des problèmes quotidiens des Français. Donc, Emmanuel Macron, comme ses deux prédécesseurs, mais lui sans doute le vit également avec une très grande volonté d'efficacité, veut que ça aille vite, qu'il y ait une très grande efficacité. Il ne s'agit pas de supprimer le poste de Premier ministre, il ne s'agit pas de traiter son Premier ministre de collaborateur. Emmanuel Macron ne l'a jamais fait à l'égard d'Édouard Philippe ou celui qui est encore aujourd'hui en place. Donc, à chaque fois, c'est l'efficacité qui doit primer. Quant à prendre le temps, moi je crois qu'il a raison. Enfin, il n'y a que nous. Nous, les responsables politiques, les commentateurs qui nous interrogeons. Non, je pense qu'il a raison de prendre le temps nécessaire, de respecter la respiration des institutions. Il a été tronisé hier dans une cérémonie à la fois belle, républicaine et sobre à l'Élysée. Donc, dans les jours qui viennent, j'imagine, moi je ne suis pas dans le secret. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, selon la belle formule de mon ami Richard Ferrand, tous ceux qui parlent ne savent rien, et ceux qui savent ne s'expriment pas, et à commencer par le président de la République. Donc ça viendra. Je pense que ce temps de respiration, de réflexion, de recul, d'analyse de ce qui s'est passé est important. Puis, par ailleurs, il y a aujourd'hui une cérémonie importante, demain un discours important du président de la République à Strasbourg, comme président de l'Union européenne, dans un contexte particulier, avec le défilé le même jour à Moscou.
Alors, on sait qu'il s'agissait d'une présidentielle compliquée, c'est-à-dire avec plusieurs forces politiques, on parle désormais de la France des trois blocs et ainsi de suite. On sait que plusieurs considèrent qu'Emmanuel Macron a eu une majorité, finalement, pour bloquer Marine Le Pen, une majorité d'adhésion peut-être un peu moins selon plusieurs. C'est un pays, la France, qui a connu de nombreux troubles, de nombreux tourments ces dernières années avec la crise des Gilets jaunes. Là, on se présente dans une situation inflation, hausse des prix et ainsi de suite. Est-ce que la France pourrait affronter dans les prochains temps une nouvelle crise des Gilets jaunes? Est-ce que finalement le deuxième quinquennat sera un quinquennat gouvernable, ou est-ce que la France a de telles tensions en elle qu'elle pourrait ressurgir très rapidement?
D'abord, la force de l'élection d'Emmanuel Macron, parce que moi je veux casser un certain nombre d'analyses, non pas les vôtres, qui me paraissent justes sur les périls. Il a été élu en améliorant son score du premier tour. C'est un vote d'adhésion au premier tour. Et certes, il y a eu un vote utile, mais pour les autres candidats, notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, également, nous le savons, vous l'avez analysé. Il a été élu nettement, et plus nettement d'ailleurs que certains pouvaient imaginer au second tour. Donc c'est un vote légitime. Il y a eu évidemment, il l'a rappelé d'ailleurs lui-même au Champ de Mars, il y a eu évidemment, d'abord il a pensé à ceux qui n'avaient pas voté pour lui, et puis ceux qui avaient voté pour lui, par opposition à Marine Le Pen. C'est courageux de le dire, mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vais vous prendre un exemple, j'étais très jeune, vous n'étiez pas né, mais en 1981, quand François Mitterrand est élu, il est élu de peu, face à Valéry Giscard d'Estaing. Il n'a pas qui ne bénéficie pas d'un désistement très, très net et très loyal, on ne va pas faire de la préhistoire, de la part de Jacques Chirac et des repères. Et donc il y a beaucoup de gens qui votent aussi contre Giscard d'Estaing. Donc c'est le propre même de ces élections. Donc, la légitimité qui est la sienne, avec évidemment l'obligation d'avoir une majorité, nous y reviendrons, à l'Assemblée nationale. La force des institutions de la Ve République doivent lui permettre de gouverner, et il y met, évidemment je suis totalement d'accord, une condition supplémentaire, qui est d'être dans ce rapport, cette méthode que nous évoquions, d'écoute et d'action permanente avec le pays.
Permettez-moi d'insister, les Gilets jaunes, c'était sous la Ve République. Les Gilets jaunes, c'était avec un Emmanuel Macron qui avait été très très bien élu, c'est le moins qu'on puisse dire, qui avait en plus la force de la nouveauté pour lui. Est-ce que vous croyez que la France porte en elle, en ce moment, est-ce qu'elle est grosse d'une autre crise des Gilets jaunes, quel que soit le prétexte? Est-ce que cette contestation pourrait ressurgir et paralyser l'action politique, inévitablement?
Depuis la fronde qui a failli emporter Louis XIV, nous savons que nous sommes un pays de rebelles. Ces risques existent. Ces risques existent, bien évidemment, de blocage, de violence, d'exaspération. D'autant plus que des responsables politiques, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, continuent à pousser, à les exacerber. Donc ces risques existent. Et donc la réponse est à la fois une réponse de majorité nécessaire à l'Assemblée nationale, d'action, notamment sur les questions du pouvoir d'achat, du prix de l'énergie, qui avait fondé d'ailleurs ces mouvements, celui du Gélone, de respect, parce qu'au fond, on assiste à un décrochage, des gens qui ne croient ni à la parole des politiques, ni des médias, ni des élites, qui n'ont pas les codes, qui ne se sentent pas respectés, au fond, c'est ça, qui ne se sentent pas considérés. Donc, toute l'action du président de la République, du gouvernement, de la majorité, de ceux qui s'expriment et qui le soutiennent, doit aller dans ce sens. Le respect, la considération, au fond, de ces classes moyennes qui décrochent, de ces couches populaires, de ceux qui, loin des métropoles, ne se sentent plus considérés. Il y a tout ce travail à faire. C'est un travail, on y reviendra, c'est aussi une raison pour laquelle je m'engage de nouveau, parce que c'est un travail passionnant. Si on aime son pays, si on aime la République, si on pense que la République, c'est à la fois la démocratie, la laïcité, mais aussi la justice sociale, eh bien, il faut être à l'écoute, d'abord, de ceux qui souffrent et de ceux qui sont en difficulté.
Manuel Valls, c'est votre grand rendez-vous. On marque une très courte pause dans un instant. On parlera des élections législatives. Elles arrivent dans 5 semaines pile. À tout de suite.